vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Dalia Arfi El-Kaïm qui nous parle d'une belle histoire d'Amir qui vient de paraître chez Hors Collection. Bonsoir Dalia.
Bonsoir Sandrine.
C'est un plaisir vraiment de vous recevoir dans
Moi
cette
aussi.
Émission.
Merci.
Vous êtes avocate d'affaires et en même temps... l'auteur de la première biographie officielle d'Amir. Votre actualité, c'est donc cette publication, Une belle histoire d'Amir, chez Hors Collection. Et c'est ce qu'on appelle un beau livre, un livre de grand format avec des photographies nombreuses et un texte qui raconte pour la première fois l'ascension fulgurante d'Amir sur la scène française. En 7 ans, hein, c'est très court et c'est un bon chiffre en plus dans la religion juive. Cet auteur, compositeur et interprète a franchi les étapes du succès grâce notamment à sa signature vocale unique, ses talents artistiques de showman et de compositeur, son travail acharné, sa détermination et en même temps sa sincérité qui transparaît dans ses compositions. Et en près de 200 pages richement illustrées, vous nous contez l'histoire de cette réussite fulgurante. La première question qu'on aimerait vous poser, quel est le lien entre vous, avocate d'affaires, et Amir, et pourquoi cette biographie ?
Nous avons réalisé quelque chose de totalement atypique. Je suis l'avocate d'Amir depuis le début de sa carrière. Et on a très vite créé des liens d'amitié. Comme je l'explique dans le livre, on ne peut pas travailler avec Amir sans créer forcément des liens personnels. Et dans mon cas, moi, ça a été involontaire. Je l'ai accompagné juridiquement, mais j'ai participé pleinement à la création de son histoire en étant finalement un témoin privilégié des étapes qui étaient franchies une à une. Avec ce témoignage que je souhaitais apporter sur le fait que c'est un garçon qui a toujours cru en ses rêves et qui s'est donné les moyens d'y parvenir, qui a tout fait pour réussir son rêve qui est de devenir chanteur. Et donc l'envie d'écrire ce livre s'est véritablement imposée. À un moment donné où moi j'avais un projet d'écriture personnelle depuis des années mais j'avais pas le temps. J'avais pas forcément les idées pour, parce que c'est pas facile d'inventer une histoire. Et là, j'avais cette histoire toute prête qui se déroulait devant mes yeux. Et j'avais envie de dire aux gens, vous avez pas été nombreux à croire en lui en ses débuts, notamment les professionnels du milieu, mais regardez ce qu'il a réussi à accomplir en 7 ans. Et du coup, c'est un récit qui peut motiver des personnes dans leurs projets personnels pour aller au bout de leurs ambitions, de leurs projets, de leurs rêves.
Alors vous racontez au début votre rencontre, finalement les choses se passent très vite et à vous lire, et en ne connaissant pas Amir personnellement mais en le voyant chanter, évoluer sur scène, il y a un point commun entre vous, c'est peut-être la sincérité, non ?
Oui, on a voulu faire quelque chose de sincère parce qu'Amir est un garçon très sincère avec son public et je pense qu'il n'aurait pas participé à l'écriture d'un livre avec une personne qui ne faisait pas partie de son entourage proche. Il n'aurait pas pu se livrer de la même façon, avec un journaliste qui l'aurait interrogé de façon peut-être plus conventionnelle, interviewé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça aurait pris peut-être une tournure promotionnelle, alors que c'était pas l'objectif, on s'était donné du temps. C'était tôt, quand on a commencé à travailler sur le projet, c'était en juillet 2017, et je lui avais dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais on fera quelque chose de sincère, de vrai, qui te ressemble, auquel tu participeras pleinement. Et il s'est énormément investi dans l'écriture de ce livre. Et lui, qui est toujours si pressé, il m'a donné du temps. Il savait que je n'avais pas beaucoup de temps, que je le faisais sur mon temps libre. Et il ne m'a jamais pressé pour terminer. Il m'a vraiment laissé tout le temps de lui présenter le projet.
Alors, c'est Amir, hein, sa biographie, mais c'est Amir raconté par Dalia.
Oui.
Qui est Amir, finalement ? Comment on peut résumer cette biographie aux auditrices et aux auditeurs de la fréquence juive ?
Amir est un garçon solaire depuis sa plus jeune enfance, qui a eu une enfance heureuse. Épanouissante malgré une surdité partielle qu'il a remarquablement surmontée, malgré un trouble de l'attention lié à une hyperactivité qu'il a su maîtriser quand même et qui s'est orienté dans un autre pays, vers un autre destin, une voie qui semblait être toute tracée pour lui parce que son papa est médecin, donc il s'est orienté vers une voie médicale, mais qui n'était qu'une seconde voie, car dans son cœur, il a toujours été chanteur, et il a toujours eu une belle voix depuis qu'il était petit, et il a toujours eu ce rêve un petit peu inaccessible, et puis il a eu un parcours extraordinaire, il a été repéré par un premier professionnel de la musique alors qu'il était jeune à Jérusalem durant ses études. Il a enregistré un premier album qui n'a pas été un succès commercial à l'époque, mais qui a été remarqué notamment par la communauté francophone, puisqu'il y avait une reprise de Patrick Bruel de la chanson « Je te le dis quand même ». Cet épisode-là avait été précédé d'un passage remarqué dans la version israélienne de la chanson de l'émission « La Nouvelle Star ». Qui s'était pas très bien terminé pour lui, mais ce qui lui a servi un petit peu de leçon pour la suite, c'est un échec qui l'a nourri, dont il a tiré les leçons, qui s'est plus jamais reproduit et qui l'a renforcé, qui a vraiment renforcé son endurance.
Alors on va en parler, hein, les grandes étapes. C'est étonnant parce que je vous demande qui il est et vous me racontez sa carrière plus que l'homme, et l'homme transparaît énormément dans la sensibilité de l'homme dans votre ouvrage. Et évidemment, il y a aussi les grandes étapes de la carrière. Et alors, vous expliquez les débuts de son existence, et son vrai prénom n'est pas Ami. En fait, c'est un de deuxième ses autres prénoms. Prénom. C'est son deuxième prénom, mais son vrai prénom, c'est Laurent.
Laurent.
Le prénom de son grand-père paternel.
Laurent, non, c'était inspiré par...
Laurent Fabius.
Par Laurent Fabius, mais pas par... Pas pour donner une consonance politique du tout, c'est parce que le prénom, c'était un ministre, il était ministre à l'époque.
Oui.
Et c'est un prénom que les parents d'Amir entendaient tout le temps.
Ministre de l'Industrie. En fait, c'est Amir qui est inspiré d'un de ses grands-parents.
C'est pas Amir, c'est les prénoms suivants.
Parce c'est les
suivants. Il a quatre prénoms en tout. Et l'anecdote qui est rapportée dans le livre, c'est que du coup, il y a des références familiales qui sont données pour son troisième et quatrième prénom. Et non, ses parents avaient envie de l'appeler Amir parce que c'est un prénom israélien, que c'est un joli prénom.
Alors, un petit Israélien qui grandit à Sarcelles. Donc, sa mère est israélienne, son père est d'origine tunisienne. Avec cette particularité dont vous parlez, le fait qu'il ait une aplasie majeure doublée d'une surdité de l'oreille droite.
Oui.
Et c'est quelque chose, visiblement, qui pèse plus à sa mère qu'à Amir.
Oui, il n'a jamais vécu ça comme un handicap.
Oui.
Au contraire, sa maman a expliqué dans cet ouvrage... qu'il a cherché à utiliser cet handicap à d'autres fins, pour mieux dormir, par exemple en s'appuyant sur son oreille fonctionnelle et pour avoir un confort acoustique en dormant, par exemple. Et puis que c'était aussi un sujet d'amusement pour lui avec ses copains, mais elle avait peur qu'il en souffre, donc elle ne lui coupait pas les cheveux quand il était petit. Elle dissimulait sa différence. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, quand il a subi deux interventions chirurgicales, qui étaient des interventions esthétiques pour lui permettre d'avoir l'apparence d'une oreille normale, même si il a conservé cette surdité partielle, ça a permis de lui donner confiance, plus confiance. Et Amir est un garçon qui a toujours aimé attirer la lumière, qui a toujours aimé attirer l'attention.
Alors ça, vous le racontez bien, c'est le chouchou de la classe, il fait des spectacles, il baigne dans la musique dès son plus jeune âge, et il n'en a pas forcément conscience. À 6 ans, il entre au conservatoire, et il débute par le violon. Est-ce qu'il joue toujours du violon ?
Non.
Non ?
Non, non.
Après, il pratique d'autres instruments.
La guitare, principalement.
Il s'essaye un petit peu au piano.
Oui, alors Amir a eu un accident il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui a créé une gêne fonctionnelle. À un poignet, je crois que c'est le droit, si je me souviens bien. Et du coup, il garde une gêne encore pour pouvoir jouer de la guitare comme il le souhaiterait. Je sais qu'il s'initie au piano, mais je crois qu'il manque cruellement de temps pour se perfectionner avec un autre instrument. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il persévère.
Alors justement, c'est un trait de son caractère que vous évoquez à plusieurs reprises, le fait qu'il soit hyperactif. Il avait même été traité. Et ça fait penser quand même à un enfant au potentiel intellectuel. Parce que malgré cette hyperactivité, eh bien, il comprend très vite, il réussit tout de suite, même vous racontez ses études de dentisterie, finalement, il travaille très peu, il arrive aux examens avec une amie qui l'aide un petit peu à rester dans le mouvement, et puis il réussit tout.
Et c'est tout parce que c'est un garçon extrêmement intelligent, brillant, qui était travailleur déjà à cette époque-là, mais à sa manière.
Oui.
Parce qu'il avait une façon de s'organiser qui lui était propre, mais qui réussissait parfaitement.
Il paraît surdoué quand même un petit peu.
Il a des capacités, évidemment, dans tout. Il a beaucoup de talent dans ce qu'il fait aujourd'hui.
Oui.
Et vu que ce qui intéresse principalement les gens aujourd'hui, c'est sa musique, je dirais que son passé universitaire notamment, sert énormément aujourd'hui sa carrière. Parce que ça lui a donné un sens de l'organisation, une rigueur, une rationalité que n'ont pas forcément les autres artistes. C'est un plaisir de travailler avec ce garçon. C'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis autant attachée à lui, c'est que C'est une relation de travail extrêmement agréable, même s'il est très perfectionniste dans tout ce qu'il entreprend.
Alors justement, ça consiste en quoi d'être avocate d'Amir ?
Ah, bah c'est un accompagnement juridique. D'abord, au tout départ, c'était de l'administratif. Hein, parce qu'il est arrivé après The Voice. Moi, je l'ai reçu, Amir. Il sortait de The Voice tout juste. Et il était un peu perdu sur le plan de la paperasse, on va dire.
Oui, puisqu'il était israélien à l'époque.
Franco-israélien. Il est venu me voir et il m'a dit, comment je fais pour avoir une carte vitale, par exemple.
Oui.
Il ne savait pas comment réactiver son numéro de sécu. Il était un petit peu... Son manager de l'époque n'était pas non plus résident en France. Donc, ils étaient un petit peu, je ne vais pas dire perdus, mais ils avaient besoin d'une aide sur le plan administratif et sur le juridique de base. Donc, le rôle d'un avocat qui accompagne un artiste, c'est vraiment un rôle d'accompagnement. Il a un artiste, il a des problèmes. Non, on n'a pas de problème quand on est artiste, on doit avoir un accompagnement. Tous les artistes ont un avocat. Et c'est un accompagnement au niveau des contrats, la relecture des contrats, ce que les artistes ne font pas eux-mêmes, ils ne rentrent pas dans le cœur du juridique. Donc, on relit les contrats, on négocie certaines choses pour eux. Et puis voilà, au tout départ, il y a eu des choses extrêmement symboliques. C'est moi qui l'ai inscrit à la SACEM, Amir. C'est moi qui ai déposé sa marque, le nom Amir. Des choses comme ça qui sont très fortes et qui ont marqué les étapes de sa carrière. Je l'explique dans le livre, le démarrage du projet avec son producteur actuel, ça a démarré par un coup de fil chez moi. Il m'appelle, il me dit, je m'appelle Monsieur David Boukobza, je suis intéressée, j'aimerais devenir producteur d'Amir. Et tout a démarré à partir de là.
Alors ça aussi, c'est une histoire folle, parce que ce n'était pas son domaine non plus.
Non, pas du tout. C'était un homme d'affaires.
Et alors, comment les choses ont évolué ? Est-ce que vous pouvez dire qu'Amir, aujourd'hui, est un ami, presque quelqu'un de votre famille ?
Oui,
on sent une telle proximité entre vous à vous lire.
Oui, je ne suis pas comme ça avec tous mes clients,
oui.
Naturellement. C'est une relation particulière.
Alors, qu'est-ce qui a fait ce déclic ? Est-ce que ça s'explique ?
C'est sa personnalité, principalement. Je l'ai écrit. Les gens qui travaillent avec lui développent une proximité. Donc, ce n'est pas possible de faire autrement et de garder des distances parce qu'il a une personnalité qui est extrêmement, extrêmement attachante. Et il a beaucoup de qualités humaines aussi, qui sont rares. C'est un garçon extrêmement honnête, droit, sincère, respectueux. Donc on a une belle relation, mais qui reste évidemment professionnelle avant tout, parce que je l'ai au quotidien, principalement pour son juridique et sa paperasse du maire général.
Est-ce qu'il a autant besoin de vous qu'à ses débuts en tant qu'avocate ? Plus encore ?
Oui, c'est une grosse responsabilité pour moi d'avoir l'accompagnement d'un artiste tel que lui, parce qu'il me fait vraiment confiance et qu'il faut se montrer digne de cette confiance, il faut se montrer à l'écoute, il faut savoir anticiper les choses, il faut savoir se méfier des gens, parce que lui, il voit le bien partout, donc il faut aussi être là pour l'alerter sur certaines choses. Et c'est vraiment un rôle d'accompagnement quotidien, on va dire. On a une relation extrêmement rapprochée. Tous les artistes ne sont pas aussi proches de leur avocat, mais beaucoup d'artistes nouent des liens avec leur avocat. Donc, je pense à Jean-Paul Belmondo, je pense à Jean-Jacques Goldman, je pense à des artistes qui sont devenus amis avec leur avocat au fil du temps.
Alors, vous nous apprenez des choses. On a l'impression toujours que c'est plutôt l'agent qui est proche. Mais là, en fait, vous êtes presque 24 sur 24 avec lui.
Non, mais alors, Amir, il fonctionne par WhatsApp.
Ah,
principalement.
D'accord.
C'est un mystère pour personne. Et on s'envoie des notes vocales tous les jours. Et après, je l'ai peut-être au téléphone une fois par semaine ou deux fois par semaine parfois. Ou des fois, on ne s'appelle pas une semaine, ça peut arriver. Mais je reste rarement 3-4 jours sans avoir de ces nouvelles parce que c'est son mode de fonctionnement. Je pense qu'il travaille comme ça avec les gens de sa maison de disques aussi, ses musiciens. Je sais qu'il est proche aussi de sa petite community manager qui est une jeune femme adorable, Alison, Ali. Avec qui il fonctionne de façon peut-être un peu plus familière qu'avec moi, parce que moi, il y a quand même une distance liée au fait que mon rôle est moins sympa que poster des choses sur les réseaux. Mais sinon, on travaille très bien ensemble et ça fonctionne bien. J'espère que ça va durer longtemps.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en présence de Dalia Arfi El-Kaïm, qui nous parle de son livre « Une belle histoire d'Amir ». Encore une fois à vous lire, on s'aperçoit que la vie d'Amir n'est pas linéaire. Il y a des détours, des retours, des ruptures, des échecs, mais que toutes ces étapes négatives ou positives font sens pour lui. C'est quand même une grande qualité d'arriver à se dépasser à chaque fois.
Il y a cette volonté de dépassement chez lui, et il y a quelque chose qui le caractérise et qu'on trouve rarement chez les gens. C'est un optimisme visionnaire, dénué de prétention. Et c'est quelque chose qui est très marquant. C'est ce qui m'a marqué dès le départ et c'est ce qui a motivé aussi l'écriture de ce livre. Il sait tourner les choses de façon positive. Il sait trouver le bien dans tout événement qui peut arriver dans la vie. C'est notamment ce qui guide sa chanson « On verra bien », par exemple. C'est un thème qui a été exploré sur le plan musical. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas chez les gens. D'abord, il est toujours de bonne humeur, quoi. Donc, je l'ai rarement vu s'énerver. Et voilà, donc c'est vraiment un trait marquant de la personnalité qui crée l'attachement à la base et qui fait que les gens qui travaillent avec lui ont envie de se surpasser. Je sais que j'ai quand même interviewé 44 personnes pour cet ouvrage et tout le monde dit, j'ai envie de lui... en tout cas pour les gens de l'entourage professionnel, les gens disent, j'ai envie de donner le meilleur pour lui, de me surpasser dans ce que je peux lui apporter. Et c'est ça la magie d'Amir. Amir, quand il rentre dans une pièce... il y a tout de suite quelque chose qui se crée avec l'interlocuteur. Au niveau de la presse, il a su s'attirer la sympathie des journalistes. La presse est plutôt bienveillante avec lui dans l'ensemble parce qu'il communique extrêmement bien avec les journalistes. Et c'est comme ça dans tout. La maison de disques a été emportée par son projet dès le départ parce qu'il a entraîné tout le monde avec lui dans son pari de l'Eurovision.
J'allais vous en parler voilà. Aussi, il est devenu encore plus populaire. Et puis on sent aussi que même travailler avec lui pour les équipes de l'Eurovision, c'était un vrai plaisir.
Ah oui, et puis il a relevé un défi qui s'était fixé, un pari. C'est pour ça qu'on a deux chapitres dans le livre, un qui est sur le défi, un sur le pari d'une vie. Parce que c'était pas gagné de redorer le blason du concours qui, en France, n'avait pas une belle image à cette époque-là.
Oui. Ben c'est lui qui a changé la donne. Vous voyez ça de manière un peu quand même un peu ringard.
Oui,
il a changé totalement l'image de l'Eurovision.
Il y a eu un avant et un après Amir. Ça a ouvert la voie à l'excellente performance de Barbara Pravi cette année. Mais ce qui s'est produit avec Amir cette année-là ne s'est pas vraiment reproduit par la suite parce que il a mené campagne comme un homme politique en ne négligeant absolument aucune interview. Alors, le fait qu'il soit parfaitement bilingue, enfin trilingue avec l'anglais aussi, ça a énormément facilité les choses. Et l'année de sa participation à Stockholm, c'était lui la star. Et comme on l'explique dans cet ouvrage, il est parti en candidat, il est revenu en star. Après, rien n'était fait. C'était une première étape, il a fallu tout construire. Mais il a réussi cette première étape qui était de se faire signer en maison de disque, c'était pas facile, en combinant ça avec sa performance à l'Eurovision, en revenant avec les honneurs. Et il avait eu à cœur de porter, lui qui est franco-israélien, il avait eu à cœur de porter les couleurs de la France, son pays de naissance, parce qu'il a deux nations, deux patries, deux cultures qu'il porte toujours de façon extrêmement fière. Et c'était magnifique pour lui de représenter la France. Ça a été, c'est un des meilleurs souvenirs de sa vie. Le moment le plus fort de sa carrière, bien évidemment, à ce stade. Et un des plus beaux souvenirs, effectivement.
Et d'autres sont sans doute en construction. Alors aujourd'hui, en France, Amir incarne un style musical très particulier, une sorte de pop variété. D'un point de vue personnel, il est marié à Lital, il est le papa d'un petit Michael. Qu'est-ce qui lui reste encore à accomplir ?
Amir est quelqu'un qui se fixe tout le temps de nouveaux défis. Donc, il s'est assigné des défis sportifs aussi en cours de carrière qui peuvent paraître comme ça insurmontables, mais qu'il a réussi à surmonter puisqu'il est compétiteur régulier au sein de compétitions d'Ironman, qui sont des semi-marathons extrêmement, extrêmement difficiles.
Alors, il faut dire aux auditrices et aux auditeurs que tout ce dont vous parlez est évoqué dans le livre est richement illustré. On a les photos de Amir qui se prépare au marathon.
Oui, voilà, pour l'Ironman. Donc ça, c'était vraiment déjà un défi. Et il a besoin de défis permanents. Donc, son prochain grand défi, c'est le théâtre, puisqu'il a travaillé pendant des mois sur une pièce en étroite collaboration avec Steve Suissa. Il y a eu le mois dernier une première représentation à Tel Aviv qui a été un véritable triomphe. Cette pièce est bouleversante. Elle arrivera sur Paris courant 2022. Et j'encourage tous vos auditeurs à aller la voir. C'est une merveille. Ce travail d'acteur, de comédien, voilà. Et c'est il incarne Alfred Nakache, qu'on a surnommé le nageur d'Auschwitz. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est un rôle absolument écrasant pour une première scène. C'est un monologue, Donc, toute la pièce repose sur son interprétation. Et son interprétation est extrêmement puissante. Je pense que il n'y aura pas que les fans d'Amir qui iront le voir, bien entendu. Son public ira le voir de prime abord. Mais je pense que cette pièce sera un énorme succès. Donc ça, c'est son prochain défi.
Peut-être aussi sur grand écran, oui. dans les salles.
Mais
il aimerait.
C'est inévitable. Je pense que ça arrivera. Après, il a eu des propositions, mais comme il est très exigeant dans ses choix et exigeant vis-à-vis de lui-même, il n'ira jamais là où il pense ne pas pouvoir performer sans avoir été bien préparé, sans s'être bien... Donc je sais que s'il accepte un rôle au cinéma, il faudra qu'il ait un travail très poussé de préparation d'acteur avant, ce que la musique ne lui a pas forcément permis de faire jusqu'à présent. Et oui, moi je vois le théâtre, je vois le cinéma, je vois peut-être une carrière à l'international à terme, on ne sait pas, il est encore jeune. Mais c'est vrai qu'il s'est imposé dans le paysage musical français et qu'il n'a pas vraiment de concurrent dans son domaine aujourd'hui. Il a son empreinte musicale bien ancrée, il s'est inscrit dans le cœur des gens. Le vrai pari, c'est de tenir sur la durée, comme tout artiste, mais il y parviendra. Moi, je suis intimement persuadée qu'il y parviendra.
Vous avez coécrit avec Amir cette biographie. Qu'est-ce qu'il a pensé en découvrant l'ouvrage ?
Alors, on a travaillé par étapes. Comme vous pouvez le voir, il a signé le livre. Donc aujourd'hui, en principe, c'est lui qui assure la promotion. Moi, j'apparais peu parce que j'ai mes occupations professionnelles par ailleurs et j'estime que ma part de travail est terminée à ce stade. Amir a... D'abord, on a vraiment écrit ce livre ensemble. C'est vrai que j'ai tenu la plume, mais il s'est beaucoup raconté. Il est le narrateur en arrière-plan de sa propre histoire. Il ne voulait pas de biographie. D'autobiographie. Il ne voulait pas d'autobiographie, il ne se sentait pas la légitimité pour porter un récit à la première personne. Il voulait que ce soit fait par un regard extérieur et qu'il puisse avoir le contrôle sur ce livre. Donc c'est exactement ce qui s'est passé durant 4 ans. Je suis partie à la rencontre de sa famille, de ses amis et des personnes de son entourage professionnel. Il a très soigneusement sélectionné les personnes à qui on allait proposer de participer à ce livre. Et la liste s'allongeait, et je lui disais, on ne va pas finir par une encyclopédie, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. Et puis, voilà. Et par rapport au texte que vous avez aujourd'hui, j'ai dû supprimer 10% du texte de ce qu'on avait fait, parce qu'il y en avait beaucoup trop, et il fallait faire un livre avec des photos, parce qu'il a choisi de faire un livre avec des photos. Donc, Amir, son travail a consisté à beaucoup se raconter, à définir avec moi les contours du projet, à me rencontrer 2 à 3 heures par mois durant 4 ans pour en discuter, à tout relire à la virgule près. On a échangé plusieurs manuscrits. Moi, j'éditais, je faisais relier, je lui faisais porter. Il faisait ses retours, on faisait des rendez-vous, on faisait des visios, on faisait des calls. Dès qu'il avait une idée, il m'envoyait une note vocale. Enfin, voilà. Et il a retravaillé le texte. C'est-à-dire qu'une fois que le texte lui a été livré en 3 phases, tout d'abord un petit bout pour voir si ma façon d'écrire lui convenait. J'avais peur de ça en fait, mais ça lui a convenu et il a fait beaucoup d'observations. Après il y a eu une deuxième phase, une troisième phase, et voilà, on a vraiment travaillé par tranche. Après il y a eu toute la partie iconographique, toutes les photos ont été choisies par Amir, tout a été positionné dans le livre en fonction des souhaits d'Amir. Il est intervenu aussi sur le choix du graphisme. Il a fait des suggestions d'ajouts, de paragraphes, de thèmes. Il m'a dit, par exemple, Dalia, je veux 2 chapitres sur l'Eurovision. Donc, j'ai fait 2 chapitres sur l'Eurovision. Voilà, donc c'est un livre, c'est vraiment un livre qu'on a écrit main dans la main. Et j'aurais rien pu faire sans lui. Moi, modestement, je n'ai fait que retracer quelque chose en me livrant à un exercice, enfin, sur le plan personnel, qui n'était pas une écriture juridique. Donc, c'était ça qui était intéressant pour moi. Mais je pense qu'au final, il a été content.
Donc c'est votre livre à tous les deux et qui ressemble beaucoup à Amir qui s'y est investi.
Oui.
Et il faut le dire, c'est un beau livre. On appelle ça comme ça, les livres de grand format, mais c'est vraiment un livre intéressant, riche, pour les fans et pour les autres, avec des visuels. On apprend aussi les récits de vie, comment il a grandi à Sarcelles, son passage en Israël, son retour en France. Et même si on n'est pas spécialement fan de Amir, eh bien, on s'y retrouve et on trouve cet ouvrage passionnant et intéressant. Il y a une question... habituel dans cette émission, mais néanmoins difficile pour conclure, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices, aux auditeurs de la fréquence juive de lire ce livre, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais que même si on n'est pas fan,
particulièrement d'Amir. Il est toujours agréable de découvrir un destin, de lire une histoire atypique. C'est pour ça que nous sommes édités chez Hors Collection, en fait, hein, qui est un éditeur qui a strictement respecté notre texte. C'est ça, je tiens à le dire. Personne ne nous a réécrit. C'est vraiment nos mots.
Et c'est rare.
Voilà, et c'est rare. Mmh. Et j'ai dû me battre pour avoir ça. En tout cas, pas chez eux, mais j'ai choisi cette maison d'édition car on nous donnait cette liberté-là. Et Amir, c'est ce qu'il voulait. Il voulait de la sincérité. Donc, il fallait que ce soit nos mots, notre récit. Et les gens, du coup, aimeront ce livre pour ça. Avant tout pour ça. Pour trouver la sincérité qui ressemble à celle de l'artiste. Et avoir envie de découvrir tout simplement une histoire. Même les gens qui le connaissent bien vont apprendre des choses. Il y a des choses qu'il a révélées, qu'il n'avait jamais dit ailleurs.
Que c'est pas, on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément un conte de fées. Hein. Il y a eu des embûches sur son parcours et à chaque fois, il s'en est relevé.
Ça reste un conte de fées parce que ça se finit bien.
Grâce à sa personnalité, grâce à sa détermination, son grain de voix, etc.
On a voulu faire rêver les gens en disant la vérité. Il n'y a rien qui est enjolivé. Mais c'est pour ça que vous avez ce livre avec cette petite étoile en couverture, avec ce graphisme coloré, avec... Parce qu'on avait envie de faire sourire les gens. Ce qui fait partie intégrante de son métier, c'est d'apporter du bonheur aux gens et du plaisir. Et normalement, parcourir ce livre doit rester, enfin, normalement, un plaisir, un moment de détente. Et puis aussi, on a souhaité passer un petit message d'encouragement. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'Amir a souhaité faire à travers la parution du livre.
Merci infiniment,
merci pour
Dahlia.
Votre invitation, Sandrine.
Voilà, de nous faire découvrir ce livre magnifique, ce beau livre, une belle histoire d'Amir que vous avez coécrit avec Amir en personne. Il faut dire que quelques livres seront à gagner dans l'émission de Marskalia M comme musique cette semaine. Donc, n'hésitez pas à écouter tous les soirs son émission pour pouvoir répondre à la question qu'il vous posera et découvrir ce magnifique objet. Eh bien, bonne chance à vous, bonne chance à votre amitié avec Amir.
Merci.
Et puis, longue carrière. À Amir qui mérite vraiment ce qui lui arrive.
Merci Sandrine, merci à Radio Shalom de nous avoir invités.
Bonsoir.